ETI Radio, la web radio 100% dédiée aux dirigeants d'entreprises de taille intermédiaire, co-animée par Alain Marty et Richard Fremder, en partenariat avec Généo Capital Entrepreneur, le groupe Ener, Arkéa Banque Entreprises et Institutionnelles et Financière de Courcelles.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord d'ETI Radio. Vous êtes plus de 43 000 dirigeants d'entreprises abonnés à le podcast. On vous remercie d'être toujours très nombreux à nous écouter chaque semaine. Vous pouvez bien sûr réagir sur les réseaux sociaux à mes côtés. Pourquoi animer cette émission ? Mathieu Benast, qui est le président de Financière de Courcelles. Bonjour Mathieu.
Bonjour Alain.
Et Arnaud Lefebvre, directeur territorial d'entreprise d'Arkéa Banque. Bonjour Arnaud.
Bonjour.
Alors aujourd'hui, on a le grand plaisir d'accueillir Frédéric Coirier, qui est le président du groupe Poujoula et également coprésident du Béti Île-de-France. Bonjour Frédéric.
Bonjour.
Alors vous êtes né en 1974 à Versailles, diplômé de l'université de Dortmund, nous sommes en Allemagne bien sûr, et de l'ESSEC. Et vous avez commencé par bosser en dehors du groupe familial, vous étiez où ?
En Allemagne, chez un chaudiériste, donc en relation avec les cheminées d'une certaine façon. Et donc j'ai commencé un peu à partager la culture allemande déjà, des industriels évidemment de référence, et puis dans une boîte exceptionnelle, puisque c'était un peu la Rolls, je dirais, du secteur, donc c'était très instructif.
Vous avez travaillé également en Amérique ?
Oui, après je suis parti faire un VSNE à l'époque pour des PME en fait de la mécanique française qui s'était agglomérée. Enfin, j'avais 4 à 5 petites boîtes qui se sont partagées en fait mes services pour que je puisse les représenter sur place, trouver des fournisseurs, des clients. Bref, ça a été extrêmement positif.
Ce groupe Poujoula, racontez-nous un peu l'historique. Ça a été créé quand ?
Alors, 1950, c'est une tôlerie industrielle, qui a été créée par Monsieur Poujoula.
Oui.
Donc sous-traitant en fait pour des industriels de tous bords, et puis mon père l'a racheté en fait en 1975.
D'accord.
L'a transformé pour devenir en fait un fabricant de matériaux de construction on a fait plein d'essais, on s'est planté plein de fois parce qu'on a fait des fenêtres de toit, on a fait des générateurs d'air chaud, etc. Enfin bon. Et puis on a trouvé à un moment donné un créneau qui était le conduit de cheminée métallique qui apportait en fait une innovation au marché, puisqu'à l'époque on construisait en maçonnée, donc c'était des conduits en béton, en briques, avec ses qualités, ses défauts. L'industrie était en train d'évoluer, il fallait construire vite. Dans les années 70, il fallait loger les Français, donc il fallait construire avec des solutions modulaires. Les systèmes de chauffage évoluaient également, donc les conduits n'étaient plus adaptés, on avait des problématiques de fuite, de feu, etc. Donc le conduit métallique a apporté à la fois la sécurité, la polyvalence, la personnalisation aussi, qui est un sujet intéressant, qui nous intéresse beaucoup aujourd'hui. Bref, on a révolutionné le marché, mais il a fallu faire ses classes et puis beaucoup se planter, en fait, pour trouver le bon créneau pour l'entreprise Poujoula.
Et votre marque Poujoula, c'est génial. Enfin, vous êtes en autorité spontanée, elle est énorme. Vous avez construit, vous avez dépensé beaucoup de sous en marketing, ou alors c'est le bouche à oreille ou...
Alors, on était très connus des professionnels, et puis, je dirais, à partir du début des années 2000, on s'est dit, il fallait que la marque devienne soit beaucoup plus proche du consommateur. Donc, on a fait du sponsoring, on a fait un peu de radio, maintenant on fait de la télé, on avait fait du sponsoring de météo, maintenant, l'année prochaine, on va faire des vraies campagnes télé, donc c'est nouveau pour nous, mais la marque, aujourd'hui, est connue par un Français sur deux.
Donc, c'est colossal.
Ce qui est colossal pour un produit
frigidaire, le
B2B. Voilà, c'est pour un produit B2B, en fait. Donc, notre démarche, aujourd'hui, c'est vraiment B2B, tout si. Donc, le consommateur est un ami, est un prescripteur et aussi un élément très important pour notre développement.
Frédéric, au total, 11 usines dans le monde. Il y en a combien en France ?
Il y en a 9. Donc, on est encore très franco-français. On a aussi une unité de production en Pologne que nous avons créée ex nihilo il y a une dizaine d'années. Puis, nous avons racheté aussi une usine au Danemark dans un domaine qui est la cheminée industrielle. Là, on est sur des ouvrages plus importants. On équipe des usines de tout type, des réseaux de chaleur, du traitement de environnemental, des déchets, de l'eau, etc. Donc, on est sur des ouvrages beaucoup plus importants. Mais effectivement, notre point principal industriel reste la France.
Et le capital de la société, donc c'est à la fois côté familial ?
Oui, 70% à peu près du capital familial. Moi, j'en suis majoritaire avec mes 5 frères et sœurs, 30% de cotation sur Euronext Growth. Donc, on est effectivement une boîte familiale de long terme, mes côtés.
Bon, il faut acheter massivement des actions. Attention, pas de délai d'initié. Mathieu, alors, vous avez les actions Poujoula ou pas, Mathieu ?
Pas encore.
Il faut.
Alors, première question justement concernant justement ce fait que vous soyez coté. Comment ça fonctionne pour une entreprise familiale ? Parce que cotation familiale, c'est pas
oui,
en
c'est
général.
Pas de bille, quoi.
Voilà, donc, et qu'est-ce que ça vous apporte finalement ? Est-ce que vous n'auriez pas intérêt aujourd'hui à sortir de votre cotation comme beaucoup d'entreprises ?
Alors, c'est pas envisagé aujourd'hui parce que, effectivement, ça peut être une option, mais sortir de la bourse, ça coûte de l'argent. Moi, je préfère investir dans mes outils de production, je préfère investir dans le développement de mes marchés aujourd'hui. Bon, c'est un choix qui a été fait à l'époque par mon père en 89. À l'époque, on se cotait en province. Mmh. Donc, les bourses régionales existaient et c'est ça qui l'a attiré. Peut-être qu'il ne le ferait plus aujourd'hui si c'était nouveau. Ceci étant, la bourse nous a apporté de la rigueur, de la visibilité. Nous avons beaucoup d'outils de production, etc. Le fait d'avoir plus de rigueur, c'est aussi une sécurité pour moi. Je pense que ça ouvre aussi l'entreprise. Et puis, c'est un niveau d'exigence aussi. Hein, donc, je dirais, c'est un côté intéressant parce que c'est stimulant. Et puis, encore une fois, ça a servi le développement de l'entreprise pour faire des croissances externes, etc.
Donc, aujourd'hui, combien de chiffre d'affaires vous
réalisez? On fait 400 millions à peu
400
près.
400 millions, quoi. Mathieu?
Alors, j'imagine que le paysage réglementaire, vous y échappez pas non plus.
Bien sûr.
Et qu'il évolue. Les normes environnementales et de sécurité aussi, dans des géographies finalement assez différentes, puisque j'ai noté que vous étiez quand même présent dans à peu près 8 pays aujourd'hui. Mmh. Alors comment vous faites, comment vous adaptez votre stratégie à tout ça?
Alors la réglementation, elle peut s'appliquer aux produits, elle peut s'appliquer à l'entreprise, etc. Bon, sur les produits, on est toujours en anticipation. C'est-à-dire qu'on sait que globalement, ben, on va vers plus d'efficacité énergétique, on va vers plus de sécurité, etc. Ça, on l'a intégré. C'est dans nos gènes. L'entreprise, elle est déjà dans sa phase de transformation. En RSE, on a démarré nos démarches il y a plus de 10 ans. Je dirais qu'en termes de scope 1, si on regarde la production, on est déjà décarboné. Voilà, la plus grande difficulté, c'est les fournisseurs, c'est le transport, comme dans beaucoup de secteurs d'activité. Il faut qu'on emmène l'ensemble de la chaîne de la valeur dans ce secteur-là. Au niveau de la réglementation, évidemment, si on parle de CSRD ou autres réglementations, là, effectivement, et là, je parle pour Poujoula, mais aussi pour le métier, hein, pour les entreprises de taille intermédiaire, c'est un monstre de complexité qui arrive, qu'il faut absolument... je ne dis pas détricoté, mais en tout cas adapté, proportionné à la taille des entreprises. Aujourd'hui, considérer une entreprise de taille intermédiaire comme un grand groupe international,
c'est une erreur grave.
Qui était la cible de la CSRD, est une erreur absolue, puisque on va nous demander de mesurer des milliers de critères dont personne n'a besoin, tout ça pour respecter une réglementation. Personne ne sait comment le faire, les cabinets ne savent pas comment, par quel bout le prendre, et les chefs d'entreprise non plus, tout en sachant que tout ça va se déverser sur notre écosystème, TPE, PME, client, fournisseur, qui n'est absolument pas capable de gérer cette complexité. Donc,
ça c'est cher de la gérer.
Voilà,
aussi,
donc hein. il y a une proportionnalité. Et honnêtement, ce qui se passe aujourd'hui près des agriculteurs est un indicateur, un précurseur de tout ce qui peut se passer sur les PME et ETI a fortiori. Il faut absolument simplifier notre cadre réglementaire. Ça n'enlèvera rien à la volonté des entreprises d'évoluer. Elles sont conscientes de la situation du climat, etc. Donc, elles bougent toutes, elles sont toutes dans leur transformation. Il n'y a pas besoin de rajouter de la couche réglementaire qui, par ailleurs, va coûter extrêmement cher et freiner nos investissements, puisque ce sont des dizaines de milliards d'euros de surcoûts que nos entreprises doivent aujourd'hui gérer versus la concurrence internationale.
Mathieu?
Vous avez évoqué la croissance externe. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu le projet de ces prochaines années? Est-ce que vous avez identifié, par exemple, des pays où il y avait des cibles? Est-ce que ça fait partie de votre développement aussi pour aller plus vite?
Oui, alors en fait, on a deux activités. On a parlé de l'activité équipement, conduite cheminée. On a aussi une activité dans la biomasse. Hein, donc, nous sommes producteurs et commercialisateurs de bois énergie, donc granulés, bois bûche, etc., qui fait partie de la décarbonation. Et là, ce secteur-là est dans un développement extrêmement important, parce qu'on a démarré il y a une douzaine d'années. C'est 40% du groupe d'ores et déjà. Donc, ça va se développer très, très fort, très rapidement. Donc, des croissances externes à l'international sur l'équipement, oui, il y en aura. On n'est pas assez international, très clairement. Hein. On est un gros acteur.
Combien de chiffre d'affaires hors de France?
À peu près. Alors, ça dépend des métiers. Si on regarde le métier équipement, c'est à peu près un tiers. On devrait être au-delà de ça. Donc, on y travaille et il y aura certainement des croissances externes. La partie bois énergie, elle est beaucoup plus locale. On est sur du produit qui ne se transporte pas. Et là, on a un enjeu de montée de charge pour répondre aux besoins de décarbonation. Le bois énergie, c'est pas la solution à tous les sujets. On va continuer à utiliser du gaz. On va continuer à utiliser le mix énergétique va être varié. On aura besoin de toutes les énergies. Mais le bois énergie en complément, en hybridation d'une certaine façon de l'électricité, du gaz et des autres énergies, monte en puissance. Et là-dessus, nous avons des enjeux de montée de charge qui sont très importants.
Mathieu.
Donc, croissance externe et investissement de nouvelles usines.
Alors moi, finalement, ma question, ça va être, c'est quoi votre plus grand défi là aujourd'hui, sur les 5 prochaines années? Est-ce que vous avez un défi en particulier pour marquer aussi votre passage dans cette entreprise familiale?
Vous avez 5 heures, Frédéric.
Alors, j'ai encore pas mal d'années devant moi.
Oui, vous êtes jeune. Quoi. Vous avez quel âge, d'ailleurs?
Je vais avoir 50 ans. Donc
c'est pas
bien. Un bébé. J'ai encore quelques années. Non, on a dans le côté équipement, on a le sujet du bâtiment qui, actuellement, connaît une crise assez tragique. Bon, nous sommes principalement dans la rénovation, mais on voit ce qui se passe dans l'ensemble de la chaîne de valeur. Fournisseurs, entreprises, et les entreprises vont beaucoup souffrir, et la distribution. Là, il y a un véritable sujet, c'est comment on passe ce guet, comment on va gérer cette situation. Bon, on continue à gérer, à innover, on continue à créer des nouvelles activités. On ouvre d'ailleurs une nouvelle activité dans la ventilation, qui est un secteur qualité de l'air qui est très intéressant, donc qui va venir compléter notre activité sur les conduits. Et on y fonde de très grandes ambitions. Après, le vrai enjeu pour la partie énergie, c'est la montée de charge. Donc là, c'est vraiment comment on arrive à mobiliser l'ensemble d'une filière qui est aujourd'hui peu structurée, il faut le dire. La forêt française, elle est extrêmement fracturée. C'est des petites choses.
Petite mosaïque.
Voilà, il faut qu'on arrive à regrouper tout cet écosystème pour qu'il puisse suivre la montée de charge. Et puis, évidemment, il y a toutes les équipes pour tout ça. Donc, parce que c'est elles qui font bouger les lignes, c'est elles qui font avancer le... Voilà, donc il y a un enjeu de ressources humaines aussi qui est très important et sur lequel il faut que je m'attelle aussi beaucoup.
Arnaud, vous êtes client Pujola ou pas ?
Je n'ai pas de cheminée.
Oh, ça va du tout. Alors, on va quand même continuer.
J'accepte la question quand même.
Allez-y. Un prospect, Frédéric, il faut noter son nom.
Votre groupe a une maturité RSE donc très forte. Vous êtes un dirigeant aussi très engagé. Vous avez lancé donc il y a 3 ans le projet Relations Positives. Donc, qui est une démarche qui consiste donc ou qui repose sur les indicateurs extra-financiers donc à destination de l'ensemble, on va dire, votre écosystème, que ce soit les partenaires, les clients et les collaborateurs. Pourriez-vous nous rappeler un peu la genèse en fait de ce projet et surtout le bilan que vous en faites au bout de 3 ans?
Ben en fait, ça fait encore une fois une quinzaine d'années qu'on fait beaucoup de choses. Hein. Comme je vous disais, on a déjà décarboné quasiment l'ensemble de notre impact de production. On faisait beaucoup de choses. La réglementation arrive et nous fait faire beaucoup d'indicateurs. Ce qu'on s'est dit, c'est qu'il fallait que ça parle, en fait. Ça parle à l'écosystème, donc à nos équipes, à nos fournisseurs, à nos clients, à nos partenaires financiers. Donc, Relations Positives est effectivement un projet un peu fédérateur, aussi pour rendre dans un langage un peu grand public et consommateur, quelque chose qui aujourd'hui est absolument abstrait et qui sert à rien. Donc, en fait, on a tout simplement repris les indicateurs que nous utilisons dans le cadre de l'ISO, hein, tout simplement, dans le cadre de notre plan de marche, et on l'a traduit en langage.
Compréhensible,
voilà, tout simplement, pour que les gens le comprennent, pour que les gens en fassent leur objectif propre, et puis qu'ils soient acteurs. Et non pas uniquement récepteur de l'information. Donc, c'est ce qui nous permet aussi d'emmener nos fournisseurs dans des chartes d'amélioration. On a 85% de nos fournisseurs qui aujourd'hui sont chartés avec nous pour améliorer l'empreinte carbone, traiter tous les sujets sociétaux, etc. Ça permet aux équipes aussi d'être source de propositions, hein, de projets, que ce soit mécénal, que ce soit aussi d'amélioration de fonctionnement au sein de l'entreprise. Et puis de parler aux clients, parce que on sait bien qu'aujourd'hui, cet aspect RSE, cet aspect Made in France est très important et qu'il faut l'incarner. Et si on donne des conseils aux clients, si on se les applique à soi-même, on est dans la cohérence. Quoi.
Donc,
voilà. Donc c'est aussi l'objet de cette démarche, c'est à la fois d'incarner ce qui est fait dans l'entreprise et puis d'emmener avec nous l'ensemble de l'écosystème dans cette démarche qui est positive.
Arnaud?
Et donc, ça améliore votre marque employeur. Vous avez de nombreuses implantations. Qu'en est-il? Enfin, est-ce que vous arrivez justement à... Est-ce que vous rencontrez déjà des problématiques, en fait, de recrutement sur des métiers spécifiques? Et est-ce que ça contribue, en tout cas, à attirer des talents au sein de votre groupe?
Alors, avoir une marque connue, c'est déjà facilitant, c'est
bien
sûr.
Sûr.
Ça, je pense que le fait d'avoir une bonne notoriété est important, d'avoir une bonne image aussi. En fait, ça dépend des territoires aussi. On ouvre des usines. Là, on a ouvert récemment une usine en Haute-Saône. Donc, dans un village, on a réhabilité une friche. Là, c'est difficile de recruter parce qu'il faut faire revenir les gens. Il faut faire
en Haute-Saône,
des départements qui parfois se dépeuplent et où, en fait, il y avait de grandes traditions industrielles et puis qui se sont perdues, malheureusement, avec toute la désindustrialisation qu'a connue notre pays. Donc, on peut avoir des sujets territoriaux. Donc là, on a intérêt à vraiment travailler avec les régions, avec les territoires pour redynamiser. Et puis, il y a des enjeux de métier. C'est sûr que tous les bacs plus 2, qui font tourner nos usines, la maintenance, les techniciens, c'est des métiers qui ont pour partie disparu parce qu'on a désindustrialisé. Or, c'est cela dont on a besoin pour relancer
les sujets.
Voilà. Et là, il y a un grand enjeu de formation. Formation initiale, mais ça prend du temps. Formation au cours de la vie. Donc là, nous, on a créé, mais comme beaucoup d'industriels, une école interne où on fait passer systématiquement toutes nos recrues et on intègre finalement des gens qui viennent du service. Il y a plein de populations en France qui viennent pas dans l'industrie parce qu'elles pensent qu'elles sont pas adaptées. Je pense déjà les femmes. Nous, aujourd'hui, on a 25% de nos opérateurs usines qui sont féminins. On avait 2% il y a 10 ans. C'est un progrès formidable.
Dans l'industrie, moyenne, c'est en dessous.
C'est en dessous. Ouais. Dans l'usine, on dit c'est les femmes dans les bureaux, les hommes dans l'usine. Enfin, c'est un peu ça l'image. On essaie de faire bouger ces lignes-là. Deuxièmement, vous avez plein de gens qui, à la faveur du Covid, ont changé de métier.
Qui sont à la haute saute, c'est bien pour le volontaire.
Et c'est vrai que dans l'industrie, les salaires sont plutôt supérieurs au service. Et puis, il y a une variété de métiers dans une entreprise comme la nôtre qui est incroyable. Sur 800 salariés à Niort, j'ai 140 métiers. Donc, en fait, finalement, quelqu'un qui arrive peut forcément trouver sa place. Il faut le former et puis il faut lui donner confiance sur le fait qu'il puisse changer de métier. Bon, charge à nous, parce que le système éducatif peut pas tout faire, de permettre ces passerelles et d'ouvrir ces possibles.
Et d'investir en formation.
Il faut investir en formation. Il y a un truc extraordinaire qui s'est passé dans notre pays, on n'en parle pas assez, c'est l'apprentissage. On est passé de 300 000 à 1 million.
Merci, Mme Pellicot.
Voilà. Et il faut vraiment le dire, c'est probablement un des plus gros progrès que notre pays ait fait sur les 5 dernières années. On espère que ça va produire des effets, notamment vers l'industrie.
Alors, dites-nous, Frédéric, vous êtes très impliqué aussi au sein du BETI. Un petit mot peut-être, parce que vous êtes vice-président Île-de-France, c'est ça?
Alors, je suis co-président national.
Pardon. Vous êtes co-président national, oui.
Voilà. Alors, le métier, c'est le mouvement des entreprises de taille intermédiaire. Bon, l'ETI, rappelons-le, c'est 50 millions de chiffre d'affaires, 1,5 milliard, moins de 5 000 salariés, plus de 250. C'est, on va dire, les champions cachés, comme on les appelle, de l'économie. C'est aussi là où se trouvent les champions des territoires. Donc, la France en a 6 000, nos voisins en ont beaucoup plus, l'Allemagne 2,5 fois plus, l'Italie, l'Angleterre, qu'on dit souvent désindustrialisés, en ont plus que nous. C'est justement le talon d'Achille de l'économie française et l'objectif du métier, c'est d'en avoir plus et de les faire grandir. Voilà, donc, on a des enjeux de transmission. Parce qu'on peut pas faire des ETI si on ne réfléchit pas temps long. On a besoin souvent d'intergénérationnel. Moi, j'en suis l'incarnation. On fait pas une ETI en 10 ans. Il faut 20 ans, 30 ans, 50 ans. L'âge moyen d'une ETI, c'est 70 ans. Donc, voilà. C'est des entreprises, des territoires. Donc 80% des établissements sont hors d'Île-de-France, 70% du capital est privé. Donc là, vous avez aussi beaucoup de capital patient. Donc c'est aussi ça qui fait qu'on peut faire des choix industriels, qu'on peut faire des choix, on peut oser aussi des choses parfois que n'oseraient pas des entreprises qui sont dans des contraintes de capital plus courts. Voilà, enjeu de transmission, enjeu de compétitivité. On est exposé aussi de France. Moi, j'ai toutes mes usines quasiment en France, mais je vends partout dans le monde.
Absolument.
Si les règles du jeu sont pas les mêmes, si je paye mes salariés plus chers, non pas parce que je les paye plus cher, mais parce qu'il y a plus de charges. Et si j'ai plus d'impôts de production, j'ai un boulet au pied par rapport à mes Espagnols, mes Allemands qui viennent chez moi sans avoir ces contraintes et qui ont libre accès à mon marché. Et puis enfin, il y a la complexité. L'Europe n'est pas le meilleur endroit du monde aujourd'hui. La France est encore plus complexe.
Aussi,
on surtranspose beaucoup, on règle beaucoup. Là, il y a un enjeu de complexité. Pour les ETI, c'est 28 milliards de surcoût.
C'est
complexité. C'est des centaines de milliers d'euros qui, tous les ans, ne sont pas investis dans nos usines.
Et alors, Frédéric, pour tous les patrons d'ETI qui ne sont pas encore membres du métier, qui nous écoutent en ce moment, c'est quoi la phrase qu'il faut leur donner pour les convaincre? Pourquoi est-ce qu'ils doivent rejoindre le métier?
Parce que c'est certainement le meilleur rapport, le meilleur ROI, je dirais, au niveau des associations. Voilà, le métier a fait beaucoup avancer la cause de nos entreprises dans tous les domaines que je vous ai cités. Et venir nous rejoindre, c'est aussi renforcer le mouvement et accélérer la transformation.
Frédéric, pour terminer, le plus haut métier du monde, c'est patron d'une belle ETI, membre du métier évidemment, ou alors joueur de violon?
Oh, c'est les deux. On trouve toujours un petit moment pour toucher son instrument de musique à ses heures perdues. Mais moi, ce que j'aime surtout, c'est être un chef d'orchestre.
Et
faire grandir les choses.
Merci beaucoup, Frédéric. Fin de ce numéro d'ETI Radio. Retrouvez tous nos podcasts sur le site et suivez les actualités sur les comptes LinkedIn. On se retrouve mardi prochain, 14h précise, pour une nouvelle émission.
L'invité de la semaine de ETI Radio, une production B2B Radio en partenariat avec Généo Capital Entrepreneur, le groupe NR, Arkéa Banque Entreprises et Institutionnelles et Financière de Courcelles.